Bonjour à tous et bienvenue sur le Learn and Earn Crypto Podcast. Et cette semaine sur le podcast, on a un sujet très spécial parce qu'on vous parle de crypto déjà depuis longtemps, mais aujourd'hui, on vous explique que vous ne devez pas vous lancer dans la crypto.
Ouais.
Sur ce, bonne écoute.
Je ne suis pas conseiller financier, tout ce que l'on va voir ensemble aujourd'hui ne peut pas être vu comme un conseiller financier. Vous devez faire vos propres recherches, analyses et décisions. L'investissement et le trading, c'est risqué. Risque de potentiel de gagner même, aussi potentiel de perdre, voire de perdre. Donc, toujours, si c'est dangereux, vous pouvez vous permettre de faire à la
vie.
En gros, on n'est pas conseiller financier, OK? Donc, faites vos propres décisions, recherches et tout le reste.
Et voilà.
Et la question, guys, est-ce que vous pensez que pour atteindre les objectifs que vous voulez atteindre, il faut prendre des risques?
Ne vous lancez pas dans la crypto.
Il vient de faire un disclaimer de risque. Ouais. Je demande la question qui est pas mal évidente.
Ne vous lancez pas dans la crypto, n'investissez pas, ne prenez pas de risques. N'allez pas. Quand je dis ne prenez pas de risques, littéralement, guys, investissez pas, tradez pas, essayez pas de prendre des risques dans la vie. Ne sortez pas de chez vous, ne rentrez pas dans la voiture, ne traversez pas.
Faites juste cotiser à vos fonds mutuels que vous avez l'habitude de cotiser.
Non, c'est risqué, fais rien. Mets-toi un casque dans la maison, mets-toi dans tes couvertures dans un coin et surtout ne bouge pas, ne mange pas, tu pourrais t'étouffer.
Bubble wrap.
Selon vous, guys, pourquoi est-ce que les gens ont de la difficulté à prendre des risques?
On va dans une question psychologique.
Un des points, c'est l'incapacité ou le fait que les gens ne sont pas habitués de sortir de leur zone de confort. Là. Juste de prendre un risque, automatiquement, tu dois sortir de ta zone de confort, automatiquement. Donc,
Moi, je pense que c'est la perception des gens par rapport à un risque. Parce que les gens ne prennent pas un risque à cause que dans leur perception, c'en est un. Mais les gens prennent des risques tous les jours. T'as pas pris risque de parler à ta femme, JP? T'as pris ce risque, peut-être qu'elle aurait dit « Yo,
puis lui proposer avec le, lui proposer avec après la tournée d'hélicoptère.
T'as pris ce risque, elle dit non. So, je pense que c'est une perception de risque. Les gens, ils rentrent dans leur automobile, la voiture démarre, va sur l'autoroute. Tu roules sur l'autoroute dans une petite voiture en plastique et métal avec plein d'autres petites voitures en plastique et métal à 100 km/h. T'es un malade mental. je pense que c'est juste une perception sur le risque. Parce que les gens ne comprennent pas vraiment quelque chose, leur perception, c'est que ça, c'est risqué. Mais tous les jours, ils font des choses risquées. C'est juste qu'ils ne réalisent plus que c'est un risque tellement qu'ils sont habitués à le faire.
Mais il y a des degrés de risque aussi, on s'en fout.
Moi, je pense que...
ça, c'est ta réponse la plus courte ever. Il y a des degrés de risque quand même, hein? Ouais.
j'ai lu un livre, ça s'appelle Psychology of Money, OK? Puis il disait qu'il y a des gens qui investissent dépendamment de leur génération. Il y a des générations où que, dans ce moment-là, le stock market a juste descendu. So, toutes les gens qui ont grandi dans cette génération-là, ils sont comme anti-risque. Puis il y a une autre génération où que le stock market a juste monté. Tous les gens qui sont grandis dans ce moment-là sont comme, OK, vas-y, on va se lancer. Parce qu'ils ont grandi dans un moment où que le marché a juste monté. Je pense que les risques sont associés à dépendamment de la génération que tu as grandi dedans.
La génération dans laquelle tu as grandi, elle était aussi programmée par l'éducation, par les médias, par l'information qu'elle a reçue.
Ce qui crée ta perception.
Boom.
Ça termine l'épisode. Hein?
Donc, voilà.
Mais comment on fait pour traverser cette... comment dire, casser cette perception puis vraiment voir la vérité?
Je pense que premièrement, c'est des phases. Tu vois, tu peux pas partir de « j'ai une petite tolérance au risque, j'ai une crainte ou des doutes pour prendre des risques, ce qui est normal. » Vers maintenant, je prends le risque et je m'investis. Ça vient par des phases. En premier, tu as cette compréhension de ta situation actuelle et le vouloir de changer. Si tu comprends ta situation actuelle, mais tu ne veux pas changer, ben c'est sûr que tu ne vas pas pouvoir prendre des risques. Après, tu as le vouloir de changer. Maintenant, tu réalises que tu dois apprendre. Tu vas devoir prendre des risques. Et si tu es prêt à prendre des risques pour la terre promise, pour ce que tu veux réellement, pour tes objectifs, tu vas le prendre. Mais seulement si tu es tanné à où est-ce que tu es en ce moment. Donc, des questions que tu devrais te poser, c'est qu'est-ce que tu veux, mais aussi qu'est-ce que tu ne veux pas. Ah, ça, c'est pour les gens qui sont confortables, qui me disent « Ah, mais Roman, tu vois, moi, ma façon de faire, elle fonctionne super bien. J'ai des enfants, je suis propriétaire, j'ai des fonds de retraite, etc. Je suis très bien, tu vois, je suis confortable. » Ma question pour toi, bah, « Ok, cool. Reste comme ça. Prends pas de risque. Reste comme ça. Investis pas dans la crypto. Aussi. Viens pas apprendre le trading. Comment tu te sens si d'ici les 30 prochaines années, tu es à ta retraite, exactement au même niveau, et tu n'as pas pris de risque, tu n'as rien appris, et tu n'as pas pris avantage de ce que tu aurais pu faire.
Tu le dis, je suis en dépression.
Tu n'as pas pu vraiment atteindre le maximum de ton potentiel quand tu étais né ici sur Terre. Comment tu te sens? Si tu te sens bien avec ça, de rester exactement où tu es, parfait, prends pas de risque. Mais si ça te donne cet inconfort à l'intérieur de toi, comme Samuel vient de dire, tu vas réaliser que tu dois prendre le risque. Tu vas devoir
sauter de la marge. Je commence à transpirer du dos et tout, là.
Mais des fois, les gens sont confortables, mais aussi, tu peux demander la question, est-ce que le confortable actuel est suffisant? Pour ça, la question, est-ce que le confortable actuel est suffisant?
Mais qu'est-ce que vous diriez aux gens qui ont ces peurs subconscientes? Parce que je pense pas que les êtres humains ont envie de rester dans cette zone de confort. Je pense pas que les êtres humains n'ont pas envie d'avoir plus. Je pense que les êtres humains ont des blessures, des blocages et des peurs qui ont été intégrées dans leur système de vie depuis qu'ils sont très jeunes. Même des fois, des blessures et des peurs inconscientes qui font en sorte que c'est ça qui dicte leur prise de décision. Et ils deviennent sûrs que c'est la bonne décision pour eux sans même réaliser que cette décision vient de ces peurs-là. Je me demande comment est-ce qu'on peut aider les gens à réaliser c'est quoi les peurs de tous les jours qui peuvent être ancrées en vous depuis votre plus jeune âge, que vous pourriez aller défaire, désancrer, qui pourraient complètement changer votre vie dans plein d'aspects, pas juste financièrement.
La réalité, c'est que je pense pas qu'on est, tu vois, des psychologues ou des psychiatres, on grandit ensemble, on s'entraide. Mais la question déjà pour casser la glace, c'est est-ce que tu as toujours été comme ça? Ou est-ce que c'est quelque chose de récent? Et comme tu as dit, ça vient des ancrages, alors souvent les gens vont dire « Ouais, j'ai toujours été comme ça. Ben, » super, est-ce que tu es content avec les résultats que tu as aujourd'hui? Parce que forcément, pour avoir des résultats différents, tu vas devoir prendre des actions différentes. La personne qui écoute en ce moment ce podcast, où elle est en ce moment versus la personne qu'elle veut être à peut-être 10 000 par mois, un portfolio de 1 million, 100K, peu importe, à la retraite, à la liberté, ben, pour atteindre les résultats qu'elle n'a jamais atteint, elle va devoir faire des choses qu'elle n'a jamais fait et devenir une personne qu'elle n'a jamais été. Albert Einstein l'a dit, tu ne peux pas résoudre le même problème avec le mindset qu'il a créé.
Tu peux répéter ça?
Il a dit, tu ne peux pas résoudre un problème avec le même mindset qu'il a créé. Fin de l'épisode.
Sam avec ses réponses courtes ou c'est quand il cherche quelque chose à dire.
Non, là je faisais juste apprécier ce qui a été dit.
Ouais, mais
maintenant
c'est
aussi,
la
il y a
réalité.
Aussi le côté que les gens parfois ils ont cette tolérance au risque pas nécessairement élevée parce qu'ils ont peut-être peur d'échouer. Qu'est-ce que vous direz à ces personnes-là?
Est-ce que c'est quoi des risques calculés? Qu'est-ce que ça veut dire?
Yo, cet épisode, je sens qu'il va commencer à être beaucoup trop dur.
Ben en fait, tu calcules comme un trade, par exemple. Tu dis, quel est mon risque sur ce trade? Tu dis, OK, mon risque, il est de 2%. Alors, c'est un risque qui a été calculé. Oui, il y a un risque de se lancer, de peser sur le bouton et de trade ton capital, du vrai argent pour lequel tu as travaillé hyper fort pour. Mais tu l'as calculé, tu vois. Tu n'es pas allé comme au casino où tu n'as pas juste flip un coin et dire je vais le mettre sur le noir ou sur le rouge. Tu dis ok, je vais calculer mon risque et aussi quelle est la récompense de ce risque-là.
Du risque calculé, je dirais, c'est exactement ce que Roman vient de dire. C'est quoi la récompense par rapport au risque que je prends, puis est-ce que je contrôle une certaine partie de ce risque? J'ai deux exemples qui me viennent en tête. Premièrement, quand tu traverses la rue est-ce que tu vas traverser la rue au milieu d'un gros boulevard où les voitures n'arrêtent pas de passer, puis tu te mets un foulard sur les yeux, puis tu cours, ouais, let's go, au milieu du boulevard, avec les voitures qui vont de tous les côtés, surtout si t'es en Italie, t'es mort. Là, en Italie, en tout cas, vous verrez. Mais peut-être au Québec, au moins, ils s'arrêtent, tu sais, puis ils te klaxonnent. Mais ça, c'est du risque non calculé. Tout le monde va dire, mais t'es fou, ça. Mais oui, tu m'écoutes et tu te dis, mais qui va faire ça? Mais la réalité, c'est qu'il y a des gens qui le font tous les jours dans d'autres sortes de domaines sans réaliser que c'est ce qu'ils font, dont un gros
comme
de
leur
domaine.
Finance
dans comme le leur finance. Finance ou les fonds mutuels, les fonds de placement et tout ça. Ils sont littéralement en train de se mettre un voile sur les yeux. Puis il y a quelqu'un à côté d'eux qui leur murmure, oui, c'est bon, tu peux traverser. Traverse en courant.
Est-ce que cette personne sait de quoi qu'il parle?
Wow!
Souvent,
on parlait de flèches dans notre podcast.
L'exemple est magnifique.
Souvent, ouais. Cette personne à côté, ça peut être des amis, ça peut être de la famille, des gens qui savent pas quoi ils parlent.
Un conseiller.
Ou des conseillers.
Financiers?
Je suis pas nécessairement des conseillers financiers, mais ben oui, tu sais quoi, oui.
Ok.
Oui, parce que la réalité, c'est que si je vais maintenant dans un concessionnaire Ford, qu'est-ce que le vendeur d'auto va me vendre, à ton avis?
Je pense des voitures Ford.
Des voitures Ford. Hein? Il ne va pas me vendre des Mazda.
Ou des Honda.
Il va me vendre des Ford. Est-ce que ça veut dire que la voiture Ford, c'est le meilleur véhicule pour moi? Non. Ça veut dire que c'est ce qu'il vend dans le concessionnaire. Et la plupart des gens vont placer et investir leurs finances, leur retraite. Mais qu'est-ce qu'ils font? Ils ne comprennent rien de ce qu'ils sont en train de lire. Ils lisent un contrat, ils mettent avec des conseillers dans des banques, avec des fonds de placement qui prennent des frais incroyables, qui les défoncent. En gros, qu'est-ce qu'ils font? Ils se mettent un voile sur les yeux au milieu du boulevard et ils écoutent quelqu'un à côté de lui qui dit « Oui, c'est bon. Vas-y. »
Mais la beauté traverse. Des choses...
Et la personne se fait payer pour
la,
faire ça.
Cette personne-là qui te chuchote n'a jamais traversé la rue lui-même.
Ou... Souvent, la personne n'a jamais traversé la rue lui-même ou il s'est fait chuchoter de la même chose et toi, t'as les yeux bandés, la personne chuchote à côté de toi, te tient par la main, mais ce que tu réalises pas, c'est qu'il a les yeux bandés aussi.
Vas-y,
courez ensemble au milieu du boulevard.
Sam, t'avais...
Alors maintenant...
Drop the mic, man.
Attends,
wow.
Maintenant, du risque calculé, c'est quoi? Du risque calculé, c'est de prendre conscience où tu te situes, ton environnement, d'apprendre. Comme ça, tu sais que pour traverser la rue, tu vas au passage piéton, t'attends que ça soit feu vert, tu regardes à gauche, tu regardes à droite et tu traverses. Ça, c'est du risque calculé. Mais les gens, au lieu de prendre le temps d'apprendre, au lieu de prendre le temps de se déplacer jusqu'au coin et d'attendre la lumière verte, au lieu d'avoir la patience de s'éduquer et d'attendre le moment pour bien investir, ben ils sont trop paresseux ou trop aveuglés pour se rendre jusqu'au coin de rue et attendre la lumière verte. Donc, ils préfèrent faire quoi? Le chemin qui a l'air le plus facile. Traverser au plein milieu du boulevard, les yeux bandés avec quelqu'un d'autre qui a sûrement les yeux bandés.
Mais qu'est-ce qui arrive quand, admettons, ils ont commencé à faire ça à
l'âge de... Donc tout ça pour dire, pour finir, que le risque calculé... Ouais.
Mais qu'est-ce qui arrive? C'est quoi les conséquences quand ils ont commencé à l'âge de 20 ans, maintenant ils ont 65 ans? C'est quoi les conséquences?
Mais ça dépend, là. Je ne veux pas trop rentrer dans ces trucs-là, mais la plupart des gens ne réalisent pas qu'avec les fonds mutuels classiques, les fonds de retraite, tout, je m'en fous, Sun Life, Desjardins, vas-y, je les expose tous, tout ce que tu veux, man. Manuvie. Mm-hmm. La réalité, c'est qu'en général, juste les frais que tu te fais charger sur ton capital principal, pas sur tes gains, sur ton principal, ça veut dire que tu te fais charger des frais sur, exemple, tu as mis 100 000 $ mm-hmm. tu te fais charger des frais là-dessus, plus les gains que tu fais. Les gens, ils ne réalisent pas que c'est quoi le but de l'investissement? C'est de faire de l'effet cumulé sur tes gains. Eh bien, ce qu'ils ne réalisent pas, c'est que quand ils investissent dans des fonds mutuels, des fonds de retraite et tout ça, ils se font charger des frais cumulés sur leur argent. Ce qui fait en sorte que quand tu cumules ça sur 15, 20, 30 ans, ils prennent 100% du risque avec 100% de leur capital pour recevoir 30% des gains.
Tu peux-tu répéter ça encore, s'il vous plaît? Mais plus lentement.
Ils prennent 100% des risques avec 100% de leur capital pour finalement toucher 30% des gains.
Parce qu'ils ont des frais...
Des frais cumulés. Cachés, cumulés, ouais. Qu'ils ne réalisent pas.
La réalité, comme moi, je le vois, tu vois, ça vient d'un vrai conseiller qui est
multimillionnaire.
Parce que souvent, tu vois... Avant que
j'oublie.
Ouais, vas-y.
Et c'est pour ça que c'est extrêmement important, justement, de faire attention où tu places cet argent-là. Parce que c'est comme si maintenant, je venais avec un... Imaginez, les gars, je viens avec un deal, là. Je te dis, Gory, JP, Roman, passez-moi 10 000 $ chacun, s'il vous plaît, les gars. Et je vous promets que vous prenez 100% du risque avec votre argent et je vous donne 30% dans 20 ans. Mais si on vous perdez, vous perdez, hein. Mais si vous gagnez, je vous donne 30%. Est-ce que vous allez dire oui?
Non.
Non, mais c'est ce que les gens font tous les jours et c'est pour ça que je dis qu'ils traversent la rue avec un foulard sur les yeux, avec quelqu'un d'autre qui leur tient la main qui a lui-même un foulard sur les yeux.
C'est littéralement aussi extrême? Qu'est-ce que tu viens de me dire?
C'est aussi extrême, mais je ne veux pas rentrer dans les détails.
Je voulais aussi dire, les gens disent, font ça, pourquoi? Parce qu'ils ont cette petite tolérance au risque. Et lorsqu'on dit conseiller financier, ben, eux, automatiquement, ils ont cette confiance et cette sécurité que la personne va les aider. Moi, quand je vais chercher un conseiller, et c'est important, conseiller dans n'importe quoi, en santé, en relation, en business, conseiller en finance, c'est bon. Première question, est-ce que la personne a les résultats que je veux? Si tu es un conseiller aujourd'hui qui est en train de s'enrichir en même temps en faisant tout ça avec d'autres clients, tu n'as pas les résultats que je veux. Simple. Et je préfère aller payer quelqu'un. Viens, une consultation, je te paye 1000 balles, on fait 500 $ de l'heure, on passe 2 heures ensemble, conseille-moi. Et après, moi, je vais le faire de mon côté. Je préfère faire ça que quelqu'un fasse 10 000 $ par année sur mon million. Et même plus par des frais.
Ouais, ça va être plus.
Puis c'est pas pour...
Tu payes 1000 pour quelqu'un qui t'a vraiment conseillé versus payer 10 000 au-dessus et plus pour ton million.
Le plus drôle, c'est que les gens, quand ils placent de l'argent avec un conseiller financier, ne le voient pas comme étant un risque. Parce que justement, ils ont un bandeau sur les yeux puis ils font confiance à cette personne-là, mais il y a quand même ce risque-là en arrière. C'est juste que le conseiller va amener une approche, entre guillemets, où ce que le risque est calculé. Mais la réalité, c'est que si tu as la bonne éducation, tu peux très bien, entre guillemets, calculer toi-même le risque et le faire toi-même, comme tu dis. Puis à ce moment-là, générer tes propres revenus puis conserver 100% de tes gains.
Vous savez quelque chose que je veux rajouter sur ce que tu dis, Roman? Conseiller en finances personnelles, salaire concurrentiel au Québec. Un conseiller qui répond aux besoins des membres en matière de financement et placement tout en offrant un service de qualité, Desjardins. Salaire entre 50 à 70 000 $. Ton conseiller financier fait 60 000 par année. Comme employé.
C'est fou.
Et c'est pas pour ditch, hein. C'est pas pour diss les conseillers financiers. J'ai des conseillers financiers autour de moi que c'est des gens incroyables que j'adore. Mais il y a deux types de conseillers financiers, donc choisis lequel tu es. Il y a le conseiller financier qui a beaucoup trop d'ego pour accepter qu'il ne sait pas parce qu'il pense savoir et qui continue à faire la même chose toute sa vie. Puis il y a des conseillers financiers absolument incroyables que je connais, que justement, ils réalisent à quel point le système ne fait pas de sens et ils sont en train d'apprendre pour aller à un autre niveau. Donc, quel type de conseiller financier tu es? Est-ce que tu es le conseiller financier qui a trop d'ego pour accepter les faits ou est-ce que tu es le conseiller financier que justement, à cause que tu es là-dedans, tu vois comment ça marche et tu es en train d'aller à un autre niveau? Je ne sais pas lequel tu es, mais tu es un des deux. Donc, il y en a un que c'est très bien, l'autre moins. Tu choisis, quoi.
Est-ce que... Sam, t'en souviens, tu nous avais partagé l'histoire du professeur. Il y a deux types de professeurs.
Puis, alors que tu me rappelles l'histoire.
Oui, il partage tellement d'histoires, ce gars-là.
Le premier professeur, c'est une théorie, puis l'autre, il a fait littéralement, il a son propre fond. Tu pourrais-tu le repartager?
Un fond?
Ouais, son propre fond, puis il a fait plusieurs millions de dollars. T'en souviens-tu?
C'est sûr, c'était moi qui t'avais partagé cette histoire. Parce que j'en partage tellement. Prof d'université, tu
parles. Ouais, c'est ça.
Oui, ok.
Partage ça.
Et voilà. Et voilà.
Mais
il est parti.
C'est pas très long, mais c'était justement... oh my God, ok, je sais de quoi tu parles. C'était un prof... bon, je peux pas trop nommer parce que c'est sûr qu'ils vont se reconnaître. Je vais pas...
Mais dis-le, c'est pas grave.
En fait...
Il faut pas qu'il nomme de nom.
Ouais, je connais quelqu'un que justement... cette personne est bien placée, il a une maîtrise, mais il a fait beaucoup d'argent. Il a des business, il a des bons rendements, mais il a failli se faire reprendre son poste par quelqu'un qui avait un doctorat. Et ironiquement, le gars qui avait un doctorat, c'est un prof qui se fait payer comme prof et qui n'a jamais eu aucune fucking business de sa vie. Et c'est un prof de business pour les gens qui sont en train d'aller chercher leur MBA, leur doctorat et des choses comme ça. Et finalement, l'autre ne s'est pas fait remplacer, mais j'ai toujours trouvé ça absolument incroyable parce que tu as un prof de business qui n'a jamais eu de business qui t'enseigne comment faire des business, alors que l'autre, c'est un gars qui a fait des millions, mais il a failli se faire renvoyer s'il n'avait pas eu des bons contacts, alors que lui, il fait vraiment des millions. Et voilà, donc qui est-ce que tu veux? Quel prof tu veux qui t'enseigne? De qui tu veux apprendre?
C'est aussi là que tu te rends compte que l'éducation ou la scolarité plus traditionnelle, c'est pas nécessairement, je dirais pas nécessairement, la clé pour aller chercher cette richesse.
Potentiel.
Ouais, potentiel, en surveillant les mots. Gory qui veut qu'on expose tout le monde. Non, les noms!
Mais, ouais.
Bon. Tolérance, dernier mot pour la tolérance des risques. Vous en pensez quoi? Pour ceux qui maintenant, ils ont peur de prendre ce risque parce qu'ils ont peur d'échouer.
Ben, en trading, c'est pas mal facile de calculer les risques, je trouve. Mais en investissement, comment quelqu'un peut calculer des risques en investissement, tu dirais, d'une manière très simple?
Avec une méthode.
C'est notre game que le trading, 100%. N'est-ce pas?
Il y a une méthode qui s'appelle la méthode diversification par zone. Une méthode incroyable que vous pouvez apprendre dans l'académie.
Ouais, puis si tu prends pas action par peur d'échouer, ben, tu t'assures juste d'échouer à 100%. Donc, qui risque rien n'a rien. Hein? Je veux dire, les gens qui se sont enrichis dans ce monde, ils ont clairement pris des risques que toi, t'es pas prêt à prendre, peut-être par manque d'éducation. Il faut juste prendre le temps de t'éduquer puis de comprendre.
Tu sais, aujourd'hui, qui n'échoue pas, ceux qui font rien.
Puis ne rien faire, c'est prendre une décision et prendre une action, qui est l'action de ne rien faire. Donc, voilà. Je pense qu'on a lâché des grosses lignes sur sur cet épisode.
Merci de l'écoute. Guys, on se voit sur le prochain épisode.
Let's go. Yes, puis rejoignez le groupe Facebook parce que non seulement on a une formation par semaine qu'on donne à l'intérieur, mais on a également les révisions de marché avec Samuel.
Tous les samedis, 10h. Tous les samedis, 10h du matin, heure de Montréal, 16h de Paris. On prend une heure pour faire la révision des marchés. On regarde l'actualité économique de la semaine qui est arrivée, la semaine qui s'en vient. Et on fait une révision sur la semaine qui est arrivée, la semaine qui s'en vient pour Bitcoin et Ethereum. Juste là, il y a de l'argent qui a à faire. C'est gratuit, c'est dans le groupe Facebook.
C'est gratis.
Rejoignez-le et rappelez-vous, guys. Ne traversez pas le boulevard avec les yeux bandés.
Ciao.